Radio Prague, les informations.
Selon Vladimir Špidla, la Tchéquie risque de perdre la subvention européenne de 4 milliards d'euros. Le président Klaus nomme 20 nouveaux juges. L'agence de notation chinoise Dagong attribue à la République tchèque la note A+. Selon l'ancien eurocommissaire Vladimir Špidla, la République tchèque risque de perdre cette année des subventions des fonds structurels de l'Union européenne pour 4 milliards de couronnes, quelque 160 millions d'euros. À son avis, dans les années à venir, la perte de la Tchéquie dans ce domaine pourrait atteindre des dizaines de milliards de couronnes. D'après Vladimir Špidla, la Tchéquie doit puiser avant la fin de cette année les subventions de l'année 2008. Au cas où elle ne serait pas en mesure de le faire, les subventions seraient perdues. Le président Václav Klaus a nommé 20 nouveaux juges, tout en répétant que le nombre total de juges dans le pays ne devait pas trop augmenter. Le ministère de la Justice espère toutefois encore proposer à cette fonction un petit groupe de magistrats d'ici la fin de l'année 2011. Le président tchèque a souvent critiqué le nombre de juges, qu'il estime trop important. L'agence de notation financière chinoise Dagong a attribué à la Tchéquie la note A+. L'agence Dagong apprécie la politique économique de la République tchèque à un niveau relativement élevé du développement économique et la structure rationnelle de la dette publique. Une information publiée par le serveur patria.cz. Le doyen de la faculté de droit de l'université de Plzeň, Kvetoslav Ružička, disparu depuis vendredi dernier, a été retrouvé près d'une route dans la commune de Dolní Podluží en Bohême du Nord. Il est parti le 18 novembre de son appartement de Prague et sa femme a averti la police. La cause de son départ n'a pas été précisée. Il doit passer maintenant un examen médical. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a participé au palais de l'archevêché de Prague à la conférence « La cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert » ou « La vie de la cathédrale de Prague au passé et au présent ». Il a été invité par l'archevêque de Prague et primat de l'église catholique tchèque, Dominique Duka. Parmi les thèmes de la conférence, il y a eu l'impact de la religiosité et de l'architecture française sur la cathédrale de Prague, dont la première pierre avait été posée le 21 novembre 1344. Un groupe de 17 spécialistes de 8 pays procède à un examen de la sécurité de la centrale nucléaire de Temelín. L'examen, qui durera 2 semaines, a été préparé par l'Association mondiale des exploitants des centrales nucléaires VANO. L'examen concernera entre autres la protection des systèmes de la centrale contre la radiation, l'incendie et d'autres accidents. Météo. Ce lundi, le ciel en République tchèque a été nuageux à couvert avec des éclaircies, notamment sur les régions montagneuses. Les températures maximales ont été comprises entre 3 et 7 degrés. Nous fêtons les Alberts. Mardi, le ciel en Tchéquie restera couvert et la température de diurne ne dépasseront pas 7 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter. Et je cède le micro maintenant à Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute. Vous êtes toujours sur Radio Prague, à l'écoute du programme en français. Merci à Václav Richter pour les informations. Dans notre émission, aujourd'hui, nous parlerons de la sempiternelle question de l'interdiction du Parti communiste tchèque, Parti communiste de Bohême et de Moravie. Une nouvelle initiative pour l'interdire semble aujourd'hui échouer. Et puis, nous parlerons ensuite du cinéma avec le Festival du film français. Un festival qui commence cette semaine avec beaucoup de films à l'affiche. Et puis dans la deuxième partie, comme tous les débuts de semaine, ce sera du sport avec Guillaume Narguet. « 22 ans après la chute du régime, presque jour pour jour, l'interdiction du Parti communiste de Bohême et de Moravie, le KSČM, est un sujet dont on parle régulièrement en République tchèque sans jamais que les initiatives aient abouti. La dernière en date, qui devait être ficelée par le ministère de l'Intérieur, semble également échouer. Ce nouvel échec potentiel a provoqué de vives réactions au sein du gouvernement. Il est l'un des rares anciens dissidents à avoir encore des responsabilités politiques aujourd'hui. Alexander Vondra, le ministre de la Défense du parti ODS, a été le premier à critiquer son collègue de l'intérieur, Jan Kubice, pour ne pas avoir rempli la mission confiée par le gouvernement. On l'écoute.
Le ministère des Finances, à la demande du gouvernement, avait pour tâche de préparer pour la juridiction administrative une proposition d'interdiction en accord avec l'initiative du Sénat. Le ministère n'a pas fait cette proposition, il a seulement remis 4 analyses. La question est de savoir si le ministère de l'Intérieur doit se lancer dans des analyses historiographiques compliquées. Selon moi, il est un peu tard et cela aurait dû être fait depuis longtemps.
Jan Kubice, le ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour faire interdire le Parti communiste, selon les 4 différentes analyses d'experts, qui concluent que le KSGM ne met pas en danger la démocratie. Pour Alexander Vandra, la seule solution serait désormais d'essayer de faire interdire le PC en invoquant la loi sur le caractère illégal du régime communiste et du Parti communiste de l'époque, en laissant au juge décider si l'actuel parti est le successeur de l'ancien. La question de l'interdiction des communistes n'a pas fini d'être posée à Prague. En début d'année, le politologue Michel Perotino avait évoqué cette dernière initiative sur Radio Prague.
Ce n'est pas la première fois que certaines personnalités politiques invitent, notamment le gouvernement, puisque c'est au gouvernement de le faire, invitent le gouvernement à interdire le Parti communiste. Il faut voir aussi que, premièrement, la critique vis-à-vis donc du Parti communiste est une critique récurrente. Donc on a quand même dans l'histoire politique tchèque depuis 1989 souvent des vagues d'anticommunisme. Il est vrai que depuis quelques années, ces vagues d'anticommunisme sont souvent liées à disons une volonté d'interdire le Parti communiste. En plus, il faut bien voir aussi que il y a quelques mois, quelques années, la même procédure a été appliquée aux jeunesses communistes, puis de manière plus effective au parti d'extrême droite qui lui a été interdit. La demande d'interdiction du Parti communiste, elle émane dans une configuration ou dans une actualité politique un peu particulière et on peut dire que, d'une certaine manière, ça ressort à chaque fois qu'il y a des problèmes un peu plus profonds. Et c'est souvent utilisé pour masquer, justement, ces petits problèmes, qui sont des problèmes souvent de principe.
Une admiratrice de Clement Gottwald et une fan du socialisme veut prendre la tête des communistes. Le serveur Idnes faisait ce lundi état de la potentielle candidature de Marta Semelova à la tête du parti lors du prochain congrès. Ce sera au mois de mai. Marta Semelova, une femme connue notamment pour ses participations aux cérémonies en hommage au premier président de la Tchécoslovaquie communiste et qui voudrait prendre les rênes d'un parti qui se porte toujours bien dans les sondages et qui ne semble pas du tout craindre son interdiction. Pour certains de ses membres ainsi que pour certains analystes, ce n'est qu'une question de temps avant que les communistes ne participent à un gouvernement formé par le Parti social-démocrate. De la politique, on passe à la culture maintenant avec du cinéma. Du 24 au 30 novembre se déroule la 14e édition du Festival du film français à Prague et dans 8 villes de province en République tchèque. Pour parler du programme de cette année, des invités et des avant-premières prévues, Anna Kubišta s'est entretenue avec Anna Mitterrand du service audiovisuel de l'ambassade de France. On écoute.
La 14e édition du Festival du film français projettera cette année en une semaine 37 films, 37 longs métrages et 8 courts métrages. La plupart du programme est concentré dans deux sections. C'est la section des avant-premières où on projette 9 films et la section le choix de la critique tchèque. Et c'est pareil, c'est 9 films.
Parmi les films, je pense, les plus attendus, c'est le film d'ouverture. Alors, c'est un film un petit peu particulier parce que on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est un peu franco-tchèque.
C'est carrément un film franco-tchèque parce qu'il y a une société tchèque qui a coproduit le film. Il s'agit de la société Négatif. Et le film était en plus tourné partiellement aussi en République tchèque. avec des acteurs tchèques tels que Pavel Liška ou Zuzana Kronerová ou Václav Neužil et surtout Miloš Forman qui cette fois-ci a abandonné son rôle de réalisateur et s'est transformé en acteur.
Alors il faut savoir que ce film c'est Les Bien-aimés de Christophe Honoré où également participent évidemment Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni et Ludivine Sagné. Le film de clôture également un film qui a été très remarqué. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Alors il s'agit du film La Polonine, de souvenir de la maison close de Bertrand Bonello. C'est un film qui a été présenté cette année en compétition pendant le festival à Cannes. C'est un film assez naturaliste, disons, qui décrit les réalités sociales dans une maison close à la fin du 19e au début du 20e siècle et qui reflète donc ce mal de fin de siècle dans ce milieu particulier. Voilà.
Alors Bertrand Bonello, il faut préciser qu'il sera là au festival, qu'il présentera son film, qu'il l'introduira. Alors, il y a énormément de films également qui sont présentés. Alors on peut en citer quelques-uns encore, disons parmi les avant-premières.
Parmi les avant-premières, moi j'aimerais bien recommander aux spectateurs Le Havre, le film de Aki Kaurismäki. C'est vraiment un très très beau film qui se passe donc dans cette ville du Havre et qui est un renvoi nostalgique au film de Marcel Carnet au film La Quai des Brumes. On pourra en plus admirer André Wilms et Jean-Pierre Darroussin. Et c'est vraiment un film qui vaut la peine pour se déplacer. Sinon, dans le choix de la critique tchèque, j'aimerais bien citer un film qui a été choisi par Madame Eva Zaoralova qui s'appelle Où va la nuit de Martin Provost. Et avec Jeanne Moreau en rôle principal, c'est une sorte de film policier mais en même temps psychologique parce qu'on sait depuis le début les faits, la coupable, mais ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution de la personne en face de son acte.
Alors on pourrait peut-être aussi rapidement citer un film qui est un petit peu à part, c'est le film d'un qui est le résultat d'un duo, plutôt d'un trio d'ailleurs, qui s'appelle La Fée. On connaît de ce trio également L'Iceberg, qui avait été projeté en 2010 dans le cadre du festival de Carlo Vivari, dans une section à part spéciale cinéma belge, puisqu'ils sont d'origine belge. Est-ce qu'on pourrait juste en dire quelques mots également?
Bah, ça m'est un peu difficile parce que j'ai pas eu l'occasion de voir le film, mais en tout cas c'est un film qui a eu beaucoup de succès dans le milieu des cinéastes parce qu'il a été présenté à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sans intérêt, ça c'est sûr.
C'est un film un peu grotesque.
Un peu grotesque, c'est assez physique, c'est un comique assez particulier. Ce sont les réalisateurs eux-mêmes qui jouent les rôles principaux, donc
Qui seront sur place
en plus, voilà.
Juste pour terminer, il y a une section un peu particulière cette année qui n'est pas les autres années. On espère peut-être qu'elle sera également là dans les prochaines éditions. C'est la section Arte.
Oui, c'est vrai. En fait, cette section est née plus ou moins pendant la programmation, la recherche des films, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de films qui ont été coproduits par Arte. Et donc, on s'est dit pourquoi pas créer une section à part. D'autant plus qu'on a préparé aussi la trilogie Mia Hansen-Love et dont deux films ont été aussi coproduits par Arte. Donc on est vraiment content de pouvoir faire ce choix.
C'était Anna Mitterrand du service audiovisuel de l'ambassade de France qui répondait aux questions d'Anna Kubishta. Pour plus d'informations, vous retrouverez les pages du Festival du film français sur les pages internet de Radio Prague, le www.radio.cz. Et comme chaque début de semaine, vous le savez, c'est l'heure de parler sport avec aujourd'hui une rediffusion d'une émission préparée par Guillaume Narguet et diffusée sur nos ondes en novembre 2009.
Sport en République tchèque.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive dans laquelle, une fois n'est pas coutume, c'est de squash dont il sera question. Le numéro 1 mondial de la discipline, le français Grégory Gauthier, était en effet à Prague vendredi dernier afin de disputer un match exhibition contre le meilleur joueur tchèque actuel, Jan Kokal. Un match que le français, installé dans son fauteuil de meilleur joueur mondial depuis le 1er novembre, a remporté en 4-7 face à un adversaire sacré lui 10 fois champion de République tchèque. Avant cette exhibition, Grégory Gauthier s'était confié au micro de Radio Prague et il avait d'abord expliqué les circonstances de son passage en République tchèque.
C'est pour faire connaître un peu mieux encore notre sport. Le squash se développe de plus en plus, surtout dans les pays de l'Est. Donc pour moi, je pense que c'était important de venir. En plus, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu ici en République tchèque. Donc c'est un plaisir pour moi de venir et de faire une démonstration, de montrer un peu le niveau du squash professionnel.
Ce n'est pas la première fois que vous venez à Prague. Prague, c'est même un très bon souvenir dans votre carrière.
C'est vrai que moi, j'ai été champion d'Europe il y a 4-5 ans de là. Donc, c'est sûr, c'était un super souvenir. Je suis déjà venu quand même 3-4 fois ici à Prague. J'avais même gagné un tournoi un petit PSA quand j'ai commencé le circuit professionnel. Donc, c'est sûr, j'ai toujours eu des belles victoires ici. Donc, c'est un endroit qui est assez positif pour moi, quoi.
Depuis la dernière fois que vous êtes venu à Prague, donc en 2005, aujourd'hui vous revenez 4 ans plus tard avec un statut de numéro 1 mondial. Alors, question qu'on vous a souvent posée depuis le 1er novembre, date à laquelle vous êtes passé en tête du classement mondial, que représente cette place de numéro 1 pour vous ?
Pour moi, c'est une victoire, quoi, puisque bon, ça fait des années que je cours après ça. Depuis tout petit, je m'entraîne dur, il y a eu beaucoup de sacrifices. J'ai dû quitter la famille à l'âge de 13 ans pour partir dans le sud et m'entraîner dans un pôle France. Donc, j'étais encadré dans un sport études. Et donc pour moi, c'était un boost parce que bon, j'ai eu un entraîneur au quotidien, des partenaires d'entraînement. Donc d'un côté, c'était un plus, mais il y a eu des sacrifices de fait. Et puis, c'est sûr, c'est un rêve de gamin qui devient réalité. Et c'est la plus belle chose que je pouvais souhaiter pour ma carrière sportive, quoi.
Qu'est-ce qui, selon vous, a manqué au squash pour figurer, entrer au programme olympique? Il y a une décision qui a été prise récemment par le CIO, qui a décidé d'intégrer le rugby à 7 et le golf. Donc pourquoi pas le squash? Et que manque-t-il donc à ce sport pour y entrer?
Je sais pas, c'est déjà le fait que le golf passe à un sport ultra professionnalisé et le rugby à 7 où on n'en voit quasiment pas du tout. C'est bizarre, quoi, d'avoir intégré ces deux sports. Après, c'est vrai qu'il y a 4 ans, ils ont enlevé deux sports, ils en ont intégré aucun et on était à deux doigts de rentrer olympique. Qu'est-ce qui manque? On ne sait pas vraiment parce qu'au final, la Fédération mondiale de squash a fait le boulot nécessaire pour y parvenir. Ils ont fait une très belle présentation pour essayer de rentrer dans le programme. Et voilà, ça a coincé une fois de plus. Après, je sais pas, il faut continuer à travailler et à exposer le squash de plus en plus. On a la chance de jouer sur des cours vitrés qu'on peut exposer un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment un bonus pour nous. Et donc, il faut continuer et pas baisser la tête parce que bon, un jour ou l'autre, on fera bien partie du programme olympique, quoi.
Lors de la conférence de presse qui précède donc votre match contre Jan Kokal, les journalistes tchèques vous ont fait remarquer que la demi-finale que vous avez perdue récemment au Koweït, au championnat du monde, c'était un cours tchèque. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous le saviez?
Non, d'une part, je ne le savais pas du tout. Je viens de l'apprendre à l'instant. C'est bien qu'il y ait un cours en République tchèque. Maintenant, ce serait bien aussi qu'il y ait des tournois qui soient organisés.
Ouais, il faut préciser que c'est un cours qui est en vert. Donc, pour que le public puisse...
C'est un cours qui est en vert. Donc, c'est important. Le fait d'avoir un cours en vert, ça permet de... De le bouger un peu partout, de le mettre derrière des monuments, le mettre à des endroits où voilà où il y a beaucoup de passages, on peut mettre des gros gradins, donc du coup c'est pour avoir un beau cadre avec un court de squash, mais aussi pour pouvoir attirer du monde.
Vous avez également expliqué que vous aviez déjà joué au milieu des pyramides, c'est ça, j'ai bien compris, en Égypte, l'Égypte qui est l'une des grandes nations de ce sport. Avez-vous d'autres rêves de jouer, je sais pas, à Versailles, sur les Champs-Élysées
ce serait bien à Paris. On a eu un événement l'année dernière, mais c'était à Charlesy. On aimerait bien avoir un jour un cours, mettre le cours sur le Champ de Mars, ou je sais pas, ce serait important pour nous. Après, c'est vrai que quand je joue à New York, on joue à la gare centrale de New York, c'est énorme. À Hong Kong, on joue dans un shopping center, il y a 5000 personnes avec des écrans géants qui viennent voir. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire développer notre sport, montrer le squash. Et là, si vous avez un cours en République tchèque, ce serait la solution pour encore développer le sport, d'organiser des événements, que ce soit externe ou intérieur. Donc, c'est vrai que quand c'est à l'extérieur, on a la possibilité d'avoir un beau cadre derrière. Donc,
pour un match devant le château de Prague.
Pourquoi pas? Ah, ce serait bien ça.
Voilà, c'était donc le Français Grégory Gauthier, numéro 1 mondial de squash. Il a répondu aux questions de Radio Prague.
Merci de votre attention et de votre fidélité. C'est bientôt la fin du programme en français de Radio Prague. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire au français@radio.cz, français@radio.cz, et venez faire un tour sur notre site au www.radio.cz. Alexis Rosenzweig au micro. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.